Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous ajoutez 600 pages à vos mémoires avec un second tome où vous racontez avoir fait ce que vous aviez dit, ce qui n'est pas si fréquent. Vous êtes donc un homme de parole et à la radio, c'est un atout essentiel. Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
Alors, Mémoire d'outre-vie, le premier tome était sorti l'an dernier. Là, c'est le second. Malgré tout, on l'a fait, on l'a dit aux éditions d'Observatoire. Ça va être le fil conducteur de nos clés d'une vie, puisque c'est votre vie et en même temps celle de la France des années 80 en particulier. Et on va bien sûr évoquer ce livre à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 24 janvier 1982. Ce soir-là, c'est un dimanche à la télévision, première de cette émission. C'était la première, le 24 janvier 82, de cette émission qui a duré 4 ans et qui est passée le troisième dimanche de chaque mois, qui est une émission qu'on ne peut plus imaginer à la télévision, où vous défendiez la vraie chanson française.
Absolument, on avait une troupe d'ailleurs,
oui.
Un orchestre, et c'était des thèmes illustrés par la chanson française. On a fait la Révolution française, on a fait la guerre de 14-18, on a fait les bordels, on a fait le chemin de fer. Vous savez qu'on en a fait une formidable sur les chemins de fer qu'on avait enregistré quelques jours avant. Tout ce que dit la chanson sur les chemins de fer, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Roule, roule,
bien
train
sûr.
Du plaisir ».
Bon,
enfin bref. Et entre le moment où on l'a enregistré et le moment où elle est passée à la télé, il y a eu un horrible accident de chemin de fer. Et donc, l'émission est passée, on rigolait quand même.
Oui.
Le lendemain de l'accident de chemin de fer, qu'est-ce que j'ai reçu comme lettre d'injure ?
Remarquez, c'est arrivé aussi avec Patrick Sébastien qui avait fait une émission qui se terminait par « Quand la mer monte, j'ai honte », et il y a eu un accident, un gros problème ce soir, la veille d'inondation, c'était pas terrible. Bon, alors vous proposez quand même des plateaux qu'on pourrait pas imaginer aujourd'hui. Ce genre d'émission, c'était envisageable parce que ça défendait une certaine chanson, on pourrait pas le faire aujourd'hui, Jean-François Kahn.
Ça, je me rends pas compte. D'abord parce que je ne regarde plus la télévision.
Vous n'êtes pas le seul.
C'était de la chanson traditionnelle, pas traditionnelle, ce qu'on appelle la bonne chanson française. Et c'est plus ce qui domine aujourd'hui. Mais on pourrait quand même concevoir ça. Parce que l'idée, c'était vraiment d'aborder des sujets, même des sujets philosophiques, politiques, sociaux, mais à travers ce qu'en dit la musique en général et la chanson en particulier, qui en dit beaucoup. C'est incroyable. Parce que vous savez, entre nous, si on veut savoir, imaginez, vous voulez savoir, qu'est-ce que les gens pensaient sous le règne de Louis XIV, surtout à la fin du règne de Louis XIV, l'opinion publique. Comment vous voulez savoir l'opinion publique ?
Par les troubadours ?
Vous croyez ? Ben non, il n'y avait plus de troubadours. Et puis de toute façon, un troubadour ou un chanteur qui chanterait la vérité, il serait mis en taule.
Oui.
Vous ne croyez pas que les gouverneurs écrivaient « Ah, la population est très mécontente ».
Non.
C'est impossible.
Oui.
La population glorifie votre majesté. Enfin bref, la seule source qu'on a pour savoir qu'est-ce que pensaient les gens à la fin du règne de XIV, c'est la chanson.
Voilà.
Et la chanson est terrible, parce qu'on voit qu'ils en pensaient beaucoup de mal, en l'occurrence. Bon. Et la chanson dit beaucoup plus sur les courants dans le tréfonds de l'opinion qui débouche sur la Fronde, la Révolution française. La chanson dit plus que n'importe quel document.
Alors, dans votre troupe, il y avait Patrick Préjean, Caroline Claire, et j'ai vu une émission où il y a un jeune artiste débutant, pas encore fou, qui s'appelle Francis Lalanne.
Ah oui, moi, il est devenu franchement fou. Mais là, en revanche, quand je l'ai invité, il n'était pas fou du tout. Et moi, je vais vous même faire un aveu. J'avais un petit faible au début pour Francis Lalanne. Il a fait une ou deux chansons, il avait de la force dans la façon de l'interpréter. Bon, maintenant, il est devenu complètement dingue.
Mais il a fait un spectacle récemment sur la chanson française, justement,
ah bon,
qu'il défend.
Mais il écrit des poèmes aussi.
Oui. Alors, dans cette émission, un jour, et vous l'évoquez dans ce livre, vous avez reçu cette chanteuse. Lucienne Boyer, Parlez-moi d'amour. Lucienne Boyer, on oublie que quand elle a fait cette chanson, elle a été star à New York, elle descendait la 5e avenue comme un président des États-Unis.
Non, mais même en France, sa célébrité, c'était une star inouïe. D'abord, elle était très belle, il y avait un côté sexuel, même un peu dans l'attirant, et elle était extrêmement belle. Et cette chanson-là, Parlez-moi d'amour, Également, il y a une autre chanson qui est « Je me sens dans tes bras si petite, si petite ». Enfin, tout ça, c'était des succès absolument inouïs. Et donc, quand j'ai fait une émission un jour sur l'avant-guerre, chanson d'avant-guerre, je l'ai invitée. J'avais invité elle et une autre chanson qui s'appelait « Marie Bizet ».
Absolument, dont on va parler dans quelques instants.
Alors, je l'invite. Elle était très vieille, c'était une loque. Vraiment.
Elle avait gardé sa robe bleue de ses débuts, la couleur
elle pouvait
bleue.
Elle pouvait plus marcher, ouais. Elle pouvait plus se déplacer, elle avait des varices, enfin, c'était horrible. Et à la fin de l'émission, je la raccompagne chez elle, avec ma femme, dans le taxi. Donc, je la mets dans le taxi, on arrive chez elle, on la porte pour qu'elle aille jusqu'à chez elle, parce qu'on en était là. Et puis, on avait parlé dans le taxi. Et le chauffeur du taxi, quand on revient, dites-moi la dame là qui vous étiez. Bon, vous avez parlé. Elle était dans le show business. Vous avez parlé des cabarets, de la chanson. Elle était dans le show business. Ah ben dis, je pense qu'elle y était dans le show business. Elle s'appelle
Lucienne Boyer.
Lucienne Boyer. Et le type, c'était la star de son enfance. Quand il avait 20 ans, pour lui, c'était la Vierge Marie. C'était extraordinaire. Ah, viens. Et il avait entendu tout à coup une vieille femme parler avec une voix grassouillante, machin. Ah, ça lui a foutu un choc terrible. Il a lâché le volant de son taxi. Et paf, on est monté sur le trottoir, on est rentré dans les pissotières.
Et effectivement, il y avait dans cette même émission Marie Bizet avec son auberge des Trois Canards.
Dans votre chambre est un vieux lavabo. Mais le malheur, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et pour ce
Marie Bizet, on a totalement oublié, ça a été une star. D'abord, c'est elle qui a engagé.
Moins que Lucienne
Boyer. Oui, mais elle a engagé un jour un jeune pianiste pour une tournée. Ce jeune pianiste, il y avait un trou en deuxième partie de son spectacle. Elle lui a demandé de chanter. C'était Gilbert Bécaud. C'est comme ça qu'il a débuté.
Mais elle, en revanche, c'est l'inverse. Je l'avais invitée dans cette même émission, mais également pour parler avec elle, parce qu'elle avait 78 ans, pour discuter avec elle de cette époque. Puis elle disparaît tout à coup. Au moment où je l'appelle, elle disparaît. Je dis, mais où elle est? Heureusement, c'était pas en direct. Où elle est? Je dis, mais où est Marie Bizet? Et tout à coup, elle apparaît sur scène et elle s'était réhabillée comme elle était habillée à 26 ans. C'est-à-dire avec une petite culotte, des barésies, etc. C'était incroyable comme apparition.
Et puis, il y a eu quand même des choses étonnantes. Vous voyez, Christine O'Krent est venue chanter dans votre émission, Jean-François.
Enfin, elle n'a pas beaucoup chanté, mais elle était là pour commenter. Oui, elle était venue. J'avais demandé à des artistes de notre temps, enfin de cette époque-là, de rechanter les très vieilles chansons françaises, c'est-à-dire Auprès de ma blonde, Il y a le bon vent, Il y a le joli vent, enfin toutes ces chansons-là, les réinterpréter de façon moderne. Et donc j'avais invité O'Krent.
Et moi je vais vous faire une confidence parce qu'il y a prescription. Un soir je tombe sur Fred Addison, qui était un chef d'orchestre des années 30, et qui me confond avec vous, parce que nous avions le même coiffeur sans doute, et qui me dit, cher Jean-François Kahn, quel est le programme de mes prochaines des prochaines émissions? Et j'ai inventé un programme de cette émission. Alors, cette émission, effectivement, c'est une base de la chanson. Après, vous êtes avant tout journaliste. Et ce qui est assez étonnant, c'est que vous faites partie de cette race de journalistes qui avait toujours touché à tous les sujets, Jean-François Kahn.
Oui, bah, d'abord parce que je voulais pas, c'était pas ma vocation première d'être journaliste. J'étais prof d'histoire, oui. D'une part. Donc, j'aime la musique, infiniment la musique. J'ai une passion, pour la raison que je vous ai dit, pour la chanson. En même temps, je me suis beaucoup investi dans des œuvres de caractère philosophique. Donc voilà, c'est une diversité. Il y a déjà, je le raconte d'ailleurs, il y a des gens qui m'en veulent pour ça, qui m'en voulaient pour ça.
Bien sûr.
Pour eux, j'étais pas dans le cadre voulu. Si vous ajoutez à ça que j'ai créé des journaux.
On va en parler.
Et que j'ai créé des journaux en plus qui ne dépendent ni d'une banque, ni de l'industrie, etc. Enfin, pour toutes ces raisons, il y a des gens qui supportaient pas. Enfin, bref. C'est vrai que toute ma vie a été une grande diversité dans l'appétence.
Et vous racontez aussi dans ce livre, et on le comprend, que vous avez été un pionnier du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des débats, il y en a partout à la télé. Bah, il y avait l'heure de vérité où vous interveniez. C'était beaucoup plus poli qu'aujourd'hui. Mais là aussi, c'était nouveau, Jean-François Kahn.
Oh oui, relativement nouveau. C'était en effet plus libre.
Oui. Et en même temps, vous aimiez ça déjà, le débat?
Moi, j'aimais bien. Ouais. J'aimais. Enfin, le vrai débat, enfin, où on respecte celui avec lequel on voilà. Débat, qu'on l'entend, on l'écoute, on lui répond.
Et effectivement, ça, à l'époque, c'était courant. C'est plus très courant aujourd'hui.
Bah là, comme je regarde pas la télé, je ne peux pas vous dire.
Oui. Mais à l'époque, mais
il semblerait que les débats soient moins sereins aujourd'hui qu'ils ne furent hier.
Alors, ce qui a marqué aussi vos débuts, c'était l'affaire Ben Merka et la guerre du Vietnam.
Oui, mais ça, je raconte dans le premier tome.
Voilà,
ça,
mais voilà. Pour faire un résumé...
Dans ce que je raconte dans le premier tome, tous les événements, pendant 70 ans quasiment, plus de 65 ans, qui se sont déroulés et qui ont façonné notre monde actuel, pour le meilleur ou pour le pire, hein, tous, sauf un, je les ai vécus de l'intérieur, en France ou à l'étranger. Donc la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la guerre des Six Jours, Septembre Noir, la révolution culturelle en Chine, la chute de l'Union soviétique, j'ai tout vécu de plus, naturellement, le retour du général de Gaulle, mai 68, etc. Donc en effet, je crois être sans doute un des derniers mecs vivants qui a vécu tout ça.
Et vous aviez pris des notes ou non ?
Alors, heureusement, j'ai pris des notes, j'ai mis mes reportages, il y a ce que j'ai écrit, heureusement, c'est ça qui m'a permis de reconstituer tout ça.
Mais en même temps, vous avez la mémoire qui est toujours d'actualité.
Moi, j'ai des trous, c'est un vrai problème. Je me suis confronté à ma mémoire. C'est pas simplement quelquefois je m'en souviens pas. Je crois que je vous avais déjà raconté que j'ai eu une conversation tout jeune, une heure et demie avec Camus, oui. Vraiment, et je me souviens de rien. Je me souviens pas un mot, je pourrais faire semblant, bon, par exemple, ou avec Malraux, enfin, etc. Me souviens plus. Mais il y a aussi le fait qu'on a des souvenirs très nets, quelquefois, très forts, et il faut les interroger. C'est-à-dire, quand en 44, j'étais chez moi à Paris, rue des Plantes, j'habitais là, dans l'ascenseur avec ma mère. Il y avait une voisine qui s'appelait Madame Legros. Et comme elle était grosse, je m'en souviens, parce qu'un enfant, Madame Legros est grosse, bon, très bien. Et elle avait des pleurs absolument comme ça, mais qui n'arrivaient pas à sortir. Ma mère lui dit, Madame Legros, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Legros ? Qu'est-ce que vous avez ? Et répond, ils ont fusillé mon fils ce matin. Et en effet, son fils, qui avait participé au lycée Buffon, à un groupe d'élèves qui avait distribué des tracts anti-allemands, etc., avait été dénoncé par le proviseur et fusillé. Et donc, c'est un souvenir très fort. C'était un souvenir très, très fort. Très fort. Et quand je vais le raconter, je vérifie la date et je vois qu'il a été fusillé en fin 43. Fin 43, je n'étais pas à Paris. Donc, je me suis aperçu que je l'avais tellement intégré, ma mère me l'avait raconté, tellement intégré que c'est comme si je l'avais vécu. Voilà. Mais objectivement, je ne l'avais pas vécu.
Il y en a d'autres que vous avez vécu et on en parle à travers une autre date, le 8 novembre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Kahn.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Kahn. Donc, parution de ses mémoires d'outre-vie, tome 2, malgré tout, on l'a fait, on l'a dit, aux éditions d'Observatoire. Et dans ce livre, vous évoquez largement une date qui est importante dans votre vie, c'est le 8 novembre 1984, sortie du premier numéro de l'événement du jeudi.
Oui.
Et ça, ça a été un événement, justement.
Oui, c'est quand je me retourne. Là, je suis particulièrement sidéré. Je n'arrive pas à concevoir comment j'ai pu d'abord oser le faire et comment j'ai pu réussir à le faire. Vous savez, j'ai vécu récemment, je n'insiste pas là-dessus, mais j'ai vécu récemment une expérience semblable. C'est-à-dire, la situation m'inquiète pour des tas de domaines. Et j'ai fait 3 tribunes libres pour le Figaro. Sur le thème, attention, parce que cette radicalisation de la droite auquel on assiste actuellement, ça risque de la faire exploser. Elle risque d'en être la victime. Et j'ai envoyé 3 tribunes libres au Monde en disant, mais si la gauche continue ses conneries, toutes ces folies, etc., et que vous ne les dénonciez pas, on va avoir la gauche qui disparaisse. On a besoin d'une gauche républicaine, d'une droite républicaine. Bon, très bien. Tous ont refusé. Le Figaro ont refusé mes 3 tribunes libres, pourtant, ça s'appelle Tribune Libre. Et le Monde assumait mes 3 tribunes libres. Si vous les reliez aujourd'hui, je dirais, mais comment ? Mais on ne pouvait pas dire ça. On ne pouvait pas publier ça dans le Figaro, dans le Monde. Vous seriez sidérés. On ne pouvait pas. Or, c'est ça que j'ai connu en 83. Là, ce n'était pas la radicalité, mais c'était, rappelez-vous, la gauche avait gagné, tout lui était ouvert. C'était la lumière qui succédait à l'ombre, comme il disait. Et la droite s'était repliée sur elle-même parce qu'elle avait perdu. Et je me heurtais à ça, que ça soit au quotidien de Paris d'un côté à droite ou au matin à gauche, à des crispations, des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on pouvait ne plus dire. Et tu sais, il faut faire un journal libre, indépendant. Le problème n'est pas d'être gauche, de droite, c'est de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la réalité dans toutes ses dimensions. Bon, il faut le faire. C'est un impératif civique, républicain. Mais j'ai rien. J'ai rien, j'ai pas d'argent, je connais pas de financiers riches, je connais pas d'industriels riches. Et tout à coup, ça s'est emparé de moi. J'ai dit, faut le faire quand même. Et je prends un téléphone, j'appelle l'AFP. J'ai une information pour vous.
Quoi?
Je vais créer un grand journal qui s'appelle le machin, etc.
L'événement du jeudi. Oui.
Et j'avais rien, mais je l'avais dit. Fallait que je fasse ce que je l'avais annoncé. Et ce que je raconte, c'est ça, c'est une épopée, mais je sais pas, vous l'avez lu.
Bien sûr.
Avouez alors, que c'est incroyable de le relire. C'est inouï de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, les difficultés et qu'on y est arrivé.
Alors justement, le premier à vous avoir dit, c'est une folie, il faut pas le faire, c'est un jeune publicitaire qui s'appelait Thierry Ardisson.
Absolument. Ouais, mais Ardisson, on l'a travaillé ensemble au début, et puis très vite, il m'a dit non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, il faut y renoncer.
Et d'ailleurs, à l'époque, il s'occupait de différentes publicités, c'est lui qui avait trouvé la pub « Touche pas à mon pote ».
Oui, mais moi, il m'avait fait une conception d'article graphique. Comment on pouvait aborder des sujets d'actualité, mais de façon graphique. C'était vachement bien, c'était très très doué.
Et à l'époque, vous trouvez un peu d'argent, et le cycliste a volé l'argent en venant au bureau.
C'est-à-dire, on n'a pas trouvé d'argent. Je l'ai fait finalement, n'ayant pas d'argent, j'ai fait par appel à l'épargne publique.
Voilà.
Mais il me fallait un petit peu d'argent pour faire la publicité pour l'appel à l'épargne publique. Et j'avais un là à trouver. J'avais exceptionnellement trouvé un mec, un Syrien d'ailleurs, qui m'avançait un peu d'argent, et il l'a demandé à son chauffeur pour me l'emmener. Le chauffeur est parti avec, je ne l'ai jamais eu.
Et alors, il y a eu quelques mécènes, notamment, j'ai découvert dans votre livre, Jean-François Kahn, la mère de Thierry Lhermitte, qui a été une des premières à donner de l'argent.
Elle a beaucoup aidé, elle donne une forte somme d'argent, et elle a travaillé avec nous au début, elle était formidable, parce qu'elle était l'héritière des tissus Bouchara.
Oui.
Et donc, elle avait quand même un peu d'argent.
Oui, elle vous en a donné. Et vous avez fait des appels au peuple, justement. Il y a des enveloppes qui sont arrivées tous les jours avec un peu d'argent. C'est comme ça que vous avez pu commencer.
Et alors, vous savez, on a eu 30 000 actionnaires. 30 000 personnes ont versé de l'argent, on a eu 30 000 actionnaires. Et on a fait un club, on les invitait à des spectacles, etc. Et vous savez, il me fallait trouver une banque pour qu'ils portent leur argent.
Oui.
C'est-à-dire même 500 euros, mais non, enfin d'une... Eh bien, figurez-vous, parmi les difficultés, il y en a une auxquelles je n'avais jamais pensé. C'est que je dis, évidemment, demander de l'argent à une banque, jamais une banque me donnera de l'argent. Mais là, c'est moi qui leur apporte de l'argent. Je leur demande qu'ils acceptent que je leur apporte. Mais elles refusaient toutes.
Et pourquoi ?
Au moment où elles donnaient des milliards à Dassault, à Ersan, qui lui était déjà endetté, mais on lui prêtait. Ben parce que comment, oulala, mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'autogestion, c'est pas d'autogestion, ça s'appelait le capitalisme populaire. Puis vous dites un journal indépendant c'est dangereux, enfin bref. Les banques voulaient pas que je rapporte mon argent, vous imaginez? Finalement on a trouvé une.
Ouais, mais finalement le principe que vous avez fait des 30 000 actionnaires, c'est ce qu'a fait récemment, depuis quelques années, ce que certains chanteurs, avec My Major Company, où les chanteurs inconnus font appel sur internet au public pour financer leur premier enregistrement.
Oui, mais il y a une grande différence, c'est pas un financement à fond perdu, je vous donne l'argent. Là, ils étaient actionnaires.
Actionnaire de l'album.
Ah bon, là, c'est une action, on allait en bourse, enfin, on n'allait pas en bourse, mais la commission des opérations de bourse regardait nos documents, nous donnait la permission, c'était vraiment ce qu'on appelle le capitalisme populaire.
Et vous devez aussi beaucoup à Michel Pollack et à Droit de réponse, Jean-François Kahn.
Parce que il se trouve qu'il y avait Droit de réponse à l'époque, en plus j'avais assisté à la fameuse émission avec Gainsbourg, qui mettait un ballon à la place de son sexe. Je vous dis pas le bordel. Enfin bref, et c'est vrai qu'il m'a invité, ça m'a permis d'appeler aux actionnaires. Ça m'a été mon premier appel aux actionnaires.
Oui, et il a tout de suite cru, lui, au journal. D'ailleurs, il a travaillé ensuite.
Alors, quand il a été viré de je lui ai confié une chronique libre. De toute façon, vous savez à qui j'ai confié des chroniques libres? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi, je peux plus m'exprimer.
Il y a une telle... Sur Sud Radio, vous exprimez, nous parlons
vrai. Comme ça, mais je veux dire, je peux m'exprimer sur la chanson, sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a une telle emprise que je vous dis, les radicalités droite et de gauche. Je fais partie de ces millions de gens. Aujourd'hui, on ne peut plus nous exprimer. On est complètement bâillonnés. En revanche, j'ai laissé du temps où on pouvait s'exprimer, mais où il y en a d'autres qui ne pouvaient pas. je leur ai confié, donné des possibilités de s'exprimer. J'ai confié une rubrique à Éric Zemmour.
Oui.
J'ai engagé Elisabeth Lévy, j'ai engagé Natacha Polony, j'ai convoqué une chronique à Edoui Plenel.
Bien sûr.
Mais je peux vous dire que tout cela, le fait qu'on puisse pas s'exprimer, nous, ils s'en foutent aujourd'hui.
Alors, finalement, vous aviez des bureaux très modestes. Je crois que votre bureau de direction, c'était même pas un bureau pour un stagiaire.
Non. C'était... Bon, c'est bien en même temps.
C'est-à-dire que c'était vraiment des petits moyens pour lancer le journal.
Voilà.
Et c'était aussi... votre but, c'était la hiérarchie réduite à la plus simple expression.
Alors, j'ai essayé, mais j'ai raté. C'est-à-dire, je me suis dit, écoutez, il y a ces journaux, hein, vous avez un directeur adjoint, un directeur de la rédaction, directeur adjoint de la rédaction, un chef de service adjoint. Tout ça, c'est lourd, c'est ridicule, espèce de bureaucratie. En plus, tous ces gens, une fois qu'ils sont chefs, ils n'écrivent plus. Donc, ils sont dans les bureaux. Donc, c'est des gens qui ne font que gérer, que cheffer, comme on dit, que cheffer. Ouais. C'est pas possible. Donc, plus d'hiérarchie, des coordinateurs. Bon, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, la pression de la rédaction et surtout des chefs était telle que malheureusement, ça c'est un de mes échecs, j'ai été obligé de revenir à une hiérarchie.
Alors, vous avez aussi eu quelques procès, dont un avec celui-ci.
Quelque chose en nous de Tennessee.
Vous avez eu un procès avec Johnny. À cause d'un article dans l'événement du jeudi.
J'ai eu un procès. Il nous avait fait. On avait fait un dessin.
Oui.
J'ai eu un dessin pour se moquer. Enfin, un dessin, quoi. Et ça lui avait pas plu du tout. Il avait fait un procès. Et il avait fait un droit de réponse. Oui. Je passe le droit de réponse avec un petit commentaire. Et il nous fait un deuxième procès sur le commentaire sur le droit de réponse. Du coup, moi, je lui fais un procès pour abus de procédure judiciaire. On passe devant le tribunal avec Johnny. Et le juge, il comprenait plus rien parce qu'il savait plus qui avait porté plainte contre qui. Ben bref. Et à la fin, c'est écrit dans le jugement, hein. À la fin, il nous condamne à prendre ensemble un petit déjeuner pour régler notre problème. C'est rare dans une décision de justice. Oui. Et j'ai dit au juge, monsieur le juge, je veux bien, mais il ne sera jamais levé à cette heure-là.
C'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé.
Et puis, il y a eu quand même l'affaire Jean-Paul Kaufmann, où tout le monde en a parlé, il a été enlevé, et c'était à l'époque un reporter de l'événement du jeudi.
Voilà, et on s'est beaucoup battu. J'ai été moi-même, d'ailleurs, au Liban, à Beyrouth, pour essayer de contribuer à sa libération. Ça nous a beaucoup obsédé. Il est resté 4 ans prisonnier. Pour nous, ça a été très lourd.
Oui, et d'ailleurs, vous avez, lorsqqu'il est revenu enfin libéré entre les deux tours des présidentielles, vous n'avez même pas eu accès sur l'aéroport pour aller le saluer tout de suite.
Ouais, c'est bizarre. Alors, quand j'ai appris sa libération, ce qui est marrant, c'est que je dînais ce jour-là. Elle m'avait demandé, c'est une dame que je ne connaissais pas, mais elle m'avait demandé de dîner avec moi. Avec celle qui jouait dans le film Carmen, comment elle s'appelait, la chanteuse, la soprane très célèbre.
Oui, oui.
Ah merde, tout à coup j'ai un trou avec son nom. Enfin, c'est une soprane très connue qui était la vedette du film d'après le Carmen de Bizet. Et moi j'étais très content, parce qu'on va parler de musique, j'adore la musique, l'opéra et tout. Et pas du tout, c'était simplement pour me vendre l'église de Scientologie. Elle était de l'église de Scientologie et voulait me faire la propagande de l'église de Scientologie. J'étais très déçu.
C'est pour ça qu'il vaut mieux taire son
nom aujourd'hui. C'est au cours de ce dîner que j'ai appris qu'il était libéré.
Voilà. Et il y a eu d'autres événements ensuite, on en parle avec une autre date, le 28 avril 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Kahn.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Kahn. À l'occasion de la sortie de Mémoire d'outre-vie, tome 2, Malgré tout, on l'a fait, on l'a dit, aux éditions de l'Observatoire. Et vous l'avez fait, vous l'avez dit, lorsque l'événement du jeudi est sorti, ça a marché 10 ans, vous avez arrêté. Et puis vous avez voulu recommencer le 28 avril 1997, paf, Marianne, premier numéro. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que vous avez décidé de refaire un journal.
Je n'avais pas l'intention quand j'ai quitté l'événement du jeudi. J'avais toujours dit, quand on reste 10 ans à la tête de la même société, on s'enquilose. On n'est plus novateur au bout de 10 ans. Donc j'arrêterai au bout de 10 ans, j'ai arrêté. Là aussi, c'est l'évolution politique et le fait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait plus dire. Toujours la même chose. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je connais tas de gens autour de moi, qui ont envie qu'on dise ça, et on ne peut pas. Et donc j'ai dit, tant pis, je replonge, etc. Et on a créé Marianne. Et Marianne, c'est pareil, des difficultés absolument considérables, terribles. On ne trouvait pas, par exemple, pour faire un journal, il faut du papier.
Oui.
Je vais voir le plus grand fabricant de papier, je voudrais vous acheter du papier, c'est un marché. Il me dit, vous avez chez vous Hachette dans votre capitale? Ah non, j'ai pas. Vous avez Rothschild dans votre capitale? Ah non, j'ai pas Rothschild. Vous avez Dassault dans votre capitale? Ah, j'ai pas. Ah ben non, alors je peux pas vous vendre du papier.
Mais pourtant, que, voilà. Il y avait eu la leçon de la première expérience, vous n'êtes pas retombé dans les mêmes pièges, vous n'avez pas eu les mêmes difficultés.
Non, j'ai, d'abord là, c'était pas un appel à une part publique, oui. Il y avait 7 ou 8 actionnaires. Enfin bref, ça a été très difficile. En plus, le premier numéro a été saisi. On n'a pas saisi de journaux depuis la guerre d'Algérie. Et paf, ça tombe sur moi. Le premier journal, le premier numéro est saisi, vous vous rendez compte? Alors, pour dire la vérité, ça nous a fait une pub terrible. Oui.
Alors, il se trouve aussi que le titre a été jugé comme ringard au début. Marianne, on vous a dit, mais vous êtes fou.
Parce que Marianne, le mot Marianne, d'ailleurs, ça dit tout sur une certaine évolution de la gauche, qui a rendu la gauche complètement folle et qui explique son état actuel. Marianne, c'est considéré comme fasciste. C'est la République. Appeler un journal Marianne, pour toute une fraction de la gauche bien-pensante, quasiment, c'était un titre fasciste. Et il y avait il y avait un drapeau bleu-blanc-rouge. Vous vous rendez compte? Un drapeau bleu-blanc-rouge dans le titre. Attends, les mecs, ils s'évanouissaient.
Et vous avez tenu bon quand même.
Ah, bon, oui.
Alors, vous qui aimez la chanson et qui la connaissez, je suis convaincu que cette chanson qui évoque Marianne vous dira quelque chose.
Je mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris.
Michel Delpech a chanté que Marianne était jolie.
Oui, quand on a vu pour notre 10e anniversaire, je l'ai invité. Il a chanté ça.
Parce que c'est une chanson qui évoque la Révolution jusqu'à mai 68. Et c'est une chanson devenue historique, même si ce n'est pas un des gros succès de Michel Delpech.
Oui, bah je vous dis, il l'a interprété pour nous, pour notre anniversaire.
Alors, il a fallu trouver une équipe. Et il y a eu un premier dîner. Je crois que Françoise Verny était à ce premier dîner, Jean-François Cade. Françoise Verny, éditrice bien connue.
Ah non, c'était pas ça. Françoise Verny, il trouve que c'était mon éditrice pour un livre que j'ai écrit, qui est livre de philosophie, qui s'appelait Esquisse d'une philosophie du mensonge. Et on a fait un dîner, comme ça, avec des journalistes de lancement un peu du livre. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez connu Françoise Verny.
Bien sûr.
Jean-François Revel, à côté, il était sobre. C'est-à-dire que, vous voyez...
À 6h du soir, il n'y avait plus personne.
Ah ouais, c'était terrible. Et là, c'était un soir, paf, elle s'endort, tout de suite, sur sa table, alors qu'il y avait tout le monde qui était là. Et puis, à un moment, elle se réveille, et là, elle se met à hurler « Vive Staline !» Non, je vous dis pas l'ambiance, c'est mon éditrice.
Alors, vous avez donc reconstitué une équipe, et pour Marianne, pour vous, tout le monde est venu au départ, Jean-François Cannes.
Bah, les anciens de l'événement du jeudi sont presque venus. Des gens du matin sont venus, parce que j'avais dirigé le matin. Le matin, c'est un journal de gauche. Alors, c'était extraordinaire, ça illustre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des élections municipales. Ah, je fais une éditoriale. J'ai dit aux élections municipales, donc vous êtes censé être de gauche, etc. Donc il faut vous mobiliser, il faut voter pour les maires de gauche qui sont bons, pour les mairies de gauche. Mais j'ajoute, quand vous avez un maire de droite qui est très bon, il n'y a aucune raison de le virer. Et quand vous avez un maire de gauche qui est nul, franchement, il vaut mieux ne pas le réélire. Attends, ils sont venus. Il y a une délégation des journalistes qui sont venus me voir pour me dire, mais attendez, ce journal est censé être de gauche, vous ne pouvez pas écrire ça. Vous ne pouvez pas écrire ça. C'est là où je me suis dit, écoutez, au revoir. Si c'est ça votre conception du journaliste, déjà j'ai eu le problème inverse avec le quotidien de Paris, au revoir. Et c'est une des raisons qui m'a fait, ce que je vous disais au début, a dit, il faut créer quelque chose, c'est pas possible.
Et créer malgré les problèmes, parce que l'événement du jeudi, bon, vous aviez dépensé beaucoup d'argent avec un club, un restaurant et autres, ça a fini par coûter très cher et poser des problèmes financiers.
Non, c'est pas ça qui a coûté cher. D'abord, ça nous coûtait pas grand-chose, parce que c'est tous les directeurs de théâtre nous donnaient des billets gratuits. Ils adoraient cette idée. Les directeurs de cinéma, ils nous donnaient des centaines de billets gratuits et on distribuait aux membres du club.
Ce qui était nouveau à l'époque aussi.
Ah oui, c'était nouveau. On a acheté un restaurant, ça marchait très bien. Un cinéma, ça marchait très bien. Non, ce qui nous a coûté cher, c'est qu'on a soutenu deux journaux, dont un de chansons.
Oui.
Hein, un journal pour la bonne chanson et un journal sur la technologie de pointe. Et là, les deux nous ont coûté cher.
Voilà. Et en même temps, bon, vous en êtes remis, mais ce qui n'a pas suivi aussi quelquefois, et notamment dans Marianne, c'est la pub. Parce qu'effectivement, ça dérangeait.
Dans Marianne, ça a été terrible parce que dans les deux cas, on a eu des succès de vente énormes. Vous savez qu'on était les premiers en vente au numéro, dans les deux cas. Les autres avaient plus d'abonnés que nous, parce que vous savez comment on fait les abonnements. C'est quand même limite. Bon. Mais on vente au numéro, on était les premiers. Et c'était un tel succès de vente, Marianne, c'était évident qu'on aurait de la pub. Rien. Aucun, rien. Donc ça a été très difficile, en fait, financièrement, au début.
Et vous dites dans votre livre, Jean-François Kahn, que la défense de Carambar vous a coûté très cher.
Oui, parce que c'était, comment il s'appelait, c'était Ribou, je crois.
Oui, c'est
ça. Et le fils Ribou, il nous a enlevé toute la pub. Parce que... Moi, mon grand souvenir, c'est surtout une fois, on a fait une enquête sur, sur l'alcoolisme, les méfaits de l'alcoolisme en France. Et Ricard nous enlève toute la pub. C'est allé maintenant, je dis. En disant, je l'appelle, je dis qu'on pourrait déjeuner ensemble. Finalement, je déjeune avec Ricard. Et je me suis obligé à lui montrer qu'on n'avait rien contre l'alcool. Alors, je ne vous disais pas ce que j'ai bu.
Et ça a sauvé la pub.
Oui.
Ça s'appelle se sacrifier. Et alors, vous dites aussi dans ce livre, Jean-François Kahn, que certaines nuits, vous ne dormiez pas ou faisiez des cauchemars en pensant à un film de Louise Buñuel, La mort en ce jardin.
Parce que j'ai traversé, quand je dirigeais Marianne, ce moment-là où on avait une vente vraiment énorme, enfin, bien plus importante qu'on le croyait, un vrai succès inouï, mais aucune pub. Le journal n'était pas cher, et donc c'était très dur, très très dur. En plus, on avait des gens qui nous étaient très hostiles, très opposés, c'est la bataille continuelle. Et c'est vrai que c'était très dur à vivre, c'était cauchemardesque quelquefois, et pendant plusieurs nuits, des nuits entières, je ne sais pas pourquoi, me revenait à l'esprit un titre, ce titre, La mort en ce jardin.
Mais vous avez tenu le choc, quoi qu'il arrive, car vous...
Alors, on a tenu le choc parce qu'on a trouvé les réponses. J'ai trouvé un certain nombre de réponses, qui fait que tout à coup, on s'est mis à l'équilibre économique, on a gagné de l'argent et on s'est développé. Mais il a fallu trouver... Les réponses, c'était de rompre avec les habitudes. De plus faire... D'abord, j'ai changé... Vous savez, il y avait les NMPP.
Oui.
C'était ceux qui diffusent les journaux,
oui.
Totalement entre les mains du syndicat CGT de la presse, avec des tarifs inouïs. Et je suis sorti, je suis le premier de tous les journaux à oser sortir des NMPP pour aller dans un autre distributeur. Mais j'ai gagné une somme folle. Vous voyez, pareil, plein de choses comme ça.
Et ça veut dire 10 années de travail comme ça, continu, sans prendre de vacances, Jean-François Kahn.
Ah, je ne prenais pas de vacances à l'époque.
Mais vous aviez la patience.
Faut dire que quand je prends des vacances, il m'arrive toujours des trucs incroyables.
Ah bon ?
J'étais en effet dans un club de vacances avec mon épouse. C'est à Noël. C'était les vacances. Donc on était le 24 décembre. Et alors c'était sur la mer Rouge. C'était incroyable. On était entouré de champs de mines. et donc il y avait le réveillon de Noël. Et ils avaient éclairé avec des projecteurs, parce que c'était la fête de Noël. Il y avait des projecteurs qui étaient attachés à des châteaux d'eau. Il y a un Américain qui avait été nager, il avait fait une dernière crawl, machin, il se lève, il se nettoie les mains au château d'eau, paf, court-circuit, paf, il tombe mort. C'est un réveillon de Noël, donc les mecs, on va pas avoir un type qui est mort en plein réveillon. Donc ils arrivent, ils le prennent, ou le mettent, le cachent, et ils le mettent dans le grand réfrigérateur de la cuisine. Donc ils mettent le mec, le mort, dans le réfrigérateur de la cuisine. Nous, on est toujours au réveillon, la dinde. Bon. Puis, à un moment, il y a un mec qui va dans la cuisine, je ne sais pas, pour chercher quelque chose, il n'y a pas assez de mayonnaise, ou je ne sais pas quoi. Bon. Au moment où ils avaient ouvert, à un moment, pour prendre quelque chose dans le frigidaire, il voit un cadavre dans le frigidaire. Alors, il arrive, la mine chiffonnée, il se met à la table, il dit à son voisin, tu sais pas, il y a un cadavre dans le frigidaire. Ah, faut pas le dire, moi, faut pas le dire. Mais n'empêche, il le dit. Il dit, dites-moi, vous savez pas, il y a un cadavre dans le frigidaire. Puis au voisin, vous savez pas, il y a un cadavre dans le frigidaire. Et tout à coup, ça devient, vous savez pas, il y a des cadavres dans le frigidaire. Puis après, ça devient, vous savez, il y a plein de cadavres dans le frigidaire. Et là, enfin, vous imaginez, et peu à peu, ça monte. C'était terrible, l'ambiance du réveillon, vous imaginez. Quasiment, il y avait eu un génocide, tous les cadavres étaient dans le frigidaire.
Alors, dans ce livre aussi, vous évoquez une rencontre insolite. Silvio Berlusconi qui vous a proposé de travailler avec lui, Jean-François Kahn.
C'est... Oui, il voulait qu'on fasse, il voulait qu'on crée un journal culturel.
Oui.
j'ai pas donné suite parce que on s'est opposé très profondément. On s'est battu. Enfin, on s'est battu tout le temps, remarquez. Mais on s'est battu quand il y a eu la privatisation TF1 contre le fait que ce soit Hachette qui l'obtienne. Parce que Hachette, faut bien voir ce que ça voulait dire. Des quotidiens, des radios, des télévisions, des librairies, des collections, la distribution. C'est une atteinte au libre marché. c'est une atteinte à la concurrence inacceptable. C'est du communisme. C'est-à-dire on ressuscitait le communisme sur une base privatisée. Et donc, on s'est opposé. J'ai été très cher, d'ailleurs, très clair. J'ai dit à Lagardère, j'ai dit, on va tout faire pour vous ratier. Il me dit, oh, pauvre jeune homme, on est quand même autrement plus puissant que vous. J'ai dit, attendez, c'est vrai, vous avez la bombe atomique. Oui, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Moi, j'ai une arbalète. Et je vais vous en donner des coups d'arbalète tous les jours, toutes les nuits, et je vais gagner. Et on a gagné.
Et Bouygues a eu,
mais le résultat, en effet, c'est que ça a été Bouygues.
Voilà. Et Bouygues que vous avez rencontré un soir, je crois.
Ah non, Bouygues, moi j'ai un souvenir terrible de Bouygues, parce qu'il se trouve que j'avais participé avec lui à une croisière et sur les côtes turques, et on visite Éphèse, la cité, la vieille cité gréco-romaine d'Éphèse. Et je lui fais visiter, je lui montre, je lui explique les temples, je lui explique tout. Puis à la fin, je le regarde pour voir. Il me regarde, il hoche la tête, et il me dit, c'est très démoli. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il calculait déjà ce que lui rapporterait une reconstruction.
Oui, ça aurait été effectivement assez pittoresque. Et moi, je me souviens d'un soir à Cannes, où il venait d'avoir TF1, on lui présente Jeanne Moreau.
Je raconte ça, d'ailleurs.
Oui, et je suis témoin, et elle lui dit, « Ah oui, cette femme, c'est pas une histoire d'ascenseur. » C'est extraordinaire. Des personnages comme ça, il y en a beaucoup d'autres dans ce livre, dont on va reparler à travers sa date de sortie, le 2 mars 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Kahn.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Kahn. Donc 2 mars 2022, sortie de ses mémoires d'outre-vie aux éditions d'Observatoire. Tome 2, malgré tout, on l'a fait, on l'a dit. Le sous-titre signifie bien ce que vous avez voulu raconter.
Ah bah oui, on l'a fait d'abord. Je dis, c'était inconcevable qu'on le fasse, on a fini par le faire. On l'a dit, c'est signifiant. C'est aujourd'hui, tous les gens qui liront ce livre, je pense, seront quand même sidérés qu'on ait dit certaines choses qui étaient évidentes, qu'on n'a pas voulu entendre, qu'on n'a pas voulu écouter. Franchement, je vous prends un seul exemple pour en prendre des tas, mais on n'est pas là pour parler politique. Mais quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne, que les gens ont voté majoritairement non, hein, je le dis d'autant plus que moi j'ai voté oui, mais n'empêche que les gens avaient voté non, c'est la démocratie. Et qu'on a fait passer le même texte sans leur demander leur avis, qu'on a fait passer dans le Parlement le texte sans leur demander leur avis, mais on a dit, mais vous imaginez ce que vous venez de faire? Vous imaginez à quel point les gens vont plus croire à la démocratie, vont plus croire à l'importance du vote, les conséquences vont être terribles. Et c'est ce qui s'est passé, tout le monde joli l'admet. Mais à l'époque, on a été les seuls quasiment à avoir fait campagne. Et je vous dis, j'avais d'autant plus mérite que j'avais voté oui. J'ai voté oui, mais le non a gagné. On respecte le scrutin.
Bien sûr. Alors, dans ce livre, vous dites aussi que ces mémoires, Jean-François Kahn, c'est le récit de vos espérances et de vos désillusions.
Bon, toujours, je crois que tout le monde peut dire ça, au fond. Je crois qu'une vie, c'est ça. Une vie, c'est rythmé par des rires et par des pleurs, et c'est rythmé par, en effet, des espérances et des désillusions.
Voilà. En même temps, peu de gens l'avouent. Vraiment, leurs désillusions ou leurs échecs, en général, on fait semblant d'avoir gagné.
Oui, mais parce que je reconnais aussi dans ce livre des échecs, évidemment. Globalement, d'ailleurs, j'ai échoué. Globalement, j'ai échoué, puisqu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire deux hebdomadaires qui avaient échappé au système capitaliste. C'est-à-dire que l'un, c'est des actionnaires qui étaient propriétaires, l'autre, c'était quelques actionnaires, dont moi et Maurice Safran. On avait échappé au système. Or, aujourd'hui, et le premier et le second sont retournés dans le système capitaliste. C'est un échec. Donc, je suis très conscient des échecs que j'ai subis.
Et vous dites, l'important, c'est de participer.
Bah oui, c'est de se battre. Mais j'ai plus l'âge, mais malheureusement...
Et alors, cette formule, en plus, on pense que c'est...
Alors, la logique, quand je vous ai dit que ça soit au Figaro ou au Monde, j'ai essayé de faire entendre un certain nombre de choses qui étaient importantes et que j'ai pas pu, qu'on me dit « Ah non, on peut pas publier ça ». La logique voudrait que je recrée un journal.
Oui.
Sauf que j'ai 84 ans, vous me voyez.
Vous êtes
créer un journal à 84 ans.
J'en reviens à cette formule, l'important c'est de participer, parce qu'on pense toujours que c'est Pierre de Coubertin. En fait, cette formule, il l'a empruntée à l'homélie de l'évêque de Pennsylvanie lors de la messe olympique des premiers Jeux de Londres à Saint-Paul. L'important dans ces Olympiades, c'est moins de gagner que d'y prendre part. Et c'est pas Coubertin qui a dit ça au départ. Alors, vous avez mené des...
Enfin, C'est bien gentil de dire ça, mais il vaut mieux gagner quand même.
Je pense. Alors, il y a plein d'anecdotes dans ce livre que vous racontez, et des anecdotes assez surprenantes, notamment à propos de Simone Weber.
Oui, vous vous souvenez de Simone Weber ?
Bien sûr.
Si les gens qui nous écoutent...
On va leur expliquer.
Se souviennent. C'est une dame qui avait été accusée, était à Nancy, d'avoir fait disparaître deux de ses amants.
Oui.
Et le premier de l'avoir découpé en rondelles, si j'ose dire. Bon. Elle était condamnée. Bon. Et bien après qu'elle ait été condamnée, quand elle est sortie de prison, donc je l'ai rencontrée, j'ai eu un face-à-face avec elle, assez long, etc. Je me souviendrai toujours de ce dialogue, parce qu'il y a quelque chose qui m'avait frappé dans son histoire. J'ai dit, mais, parce qu'elle disait qu'elle était innocente, toujours.
Oui.
Je suis innocente. Et j'ai dit, mais Madame Simone Weber, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. La nuit, à 4 heures du matin, vous prenez une petite valise et vous sortez, vous revenez avec la petite valise, puis vous ressortez avec la petite valise, puis vous rentrez avec la petite valise. Et donc, 4 ou 5 fois de suite, en pleine nuit, vous sortez, vous re-rentrez avec une petite valise. Quand même pas évident comme attitude. Donc elle me regarde, comme ça, de façon très étonnée. Je dis, mais enfin, ça vous est pas arrivé, vous, la nuit, d'avoir une insomnie et avoir envie de faire du déménagement ? Comme si c'était... Je me souviendrai toujours. Et alors, il y avait un type avec nous, c'est un gigolo, mais professionnel. C'est un mec, son métier, c'est un Italien, vous l'avez peut-être connu, qui avait un accent formidable. Son métier, c'était le gigolo. Et alors, il lui dit à un moment, il dit, Madame Simone Weber, vous dites que vous êtes innocente. C'est aucun intérêt. Des innocents, il y en a plein, des innocents. C'est ridicule, ça va intéresser... Reconnaissez que vous êtes coupable, que vous avez tué un amant qui vous traitait mal et que vous l'avez découpé en morceaux. Là, je fais de vous une vedette. Je fais de vous une star. J'ai vu dans les yeux de Simone Weber qu'elle s'interrogeait vraiment.
Voilà. Que... Et ça ne s'est jamais passé. Alors, vous évoquez aussi le monde politique et vous évoquez François Hollande, dont vous avez connu les blagounettes, bien avant qu'il soit président.
Oui, enfin, les blagounettes. Mais il est drôle. Non, moi, j'ai été... très, très, très cruel contre Hollande. J'ai écrit un petit bouquin terrible contre lui. Et je considère que c'est sans doute un des pires présidents qu'on ait eu. Mais alors, il est d'une drôlerie. Pour passer une soirée, il est formidable. Pour dîner avec quelqu'un, attends, il est extraordinaire. Il est, franchement, il faut qu'il vous parle de Poutine. Il raconte, alors, mais je ne me crois pas besoin que quand c'est d'actualité, à chaque fois que Poutine, par ses services secrets, il avait appris que Madame Merkel avait une peur, panique des chiens. Et à chaque fois qu'il bouffait avec elle, qu'il avait un regard, il m'amenait à gros chien pour la déstabiliser.
Alors, on apprend aussi dans ce livre, Jean-François Kahn, dans ses mémoires, que vous avez fait des conférences dans les prisons, devant des prisonniers, où vous avez parlé de Victor Hugo.
Beaucoup de choses, beaucoup de gens ont fait ça. Hein. Moi, j'ai fait, en effet, des causeries dans les prisons. Je me souviens d'ailleurs, à la santé, il y a deux choses dont je me souviens. D'abord, à la santé, c'était des grands criminels, enfin, des grands chefs de gang, qui avaient des dossiers très lourds, on parlait. Puis quand j'ai eu fini, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Et mais qui me dit, oui, j'ai une question, quoi. Et la gauche, où elle en est dans tout ça? Je m'attendais à tout le mec. Et alors, il y a un type qui est comme lui, un type qui avait été non seulement un gangster, mais un tueur à gages. Il avait tué des gens, bon. Et j'avais posé la question, et vous êtes de gauche ou de droite? Et il avait cette réponse formidable. Ma question était bête, mais sa réponse n'était pas bête. Je suis de gauche quand je suis dedans et de droite quand je suis dehors. Et je trouve ça absolument... c'était vraiment bien. Et la dernière chose, c'est que je me souviens d'une autre prison, c'était à Fleury-Mérogis, où j'en avais parlé un peu, peut-être de Victor Hugo, de l'actualité, enfin je sais pas quoi. Et j'ai dit aux dames, c'était une prison de femmes. Donc il y avait 20 femmes lourdement condamnées, dont certaines pour terrorisme. Et je leur dis, de quoi voudriez qu'on parle? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et là, surprise des surprises, qu'est-ce que vous croyez, de quoi il voulait qu'on parle? Qu'était vraiment leur obsession, semble-t-il, c'était le déficit de la sécurité sociale. Vous n'auriez pas cru. Vous voulez qu'on parle? Je ne m'attendais pas, moi. Et il y avait une qui était très belle, 29 ans, 30 ans, qui était très belle. Et non seulement ça l'intéressait beaucoup, mais elle avait un plan. Elle avait un plan qu'elle avait vraiment réfléchi pour régler le problème du déficit de sécurité sociale. C'était pas con, d'ailleurs. Bon. Et à la fin, j'ai été voir une gardienne, je lui ai demandé d'abord, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes condamné? Elle me dit, non, je risque d'être lourdement condamné. Mais elle n'a pas voulu me dire pourquoi. Je lui ai dit, une gardienne, mais qu'est-ce qu'elle a fait, etc. elle me dit, elle a tué son amant et elle l'a découpé en morceaux.
Voilà. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Alors, il y a un prisonnier très célèbre aussi qui a failli tuer votre femme, c'est Carlos, Jean-François Kahn. Un jour, dans
un
train...
Oui, parce que ma femme, il y avait un train qui s'appelait le Capitole à l'époque. Oui. Ben, à Toulouse, il y a le Capitole. Et c'est le fameux Capitole où un wagon a sauté, a explosé. C'est Carlos qui avait mis une bombe. Ma femme est arrivée en retard. Et donc, elle remontait le train pour aller dans son compartiment. C'était celui-là. Elle, c'était son wagon, elle avait loué là. Mais elle était arrivée en retard, donc elle s'est arrêtée avant. Un wagon avant, très bien. Puis le truc a sauté, machin, il y a eu des morts, enfin bref. Je me souviens parce qu'elle me téléphone à 1h du matin. Elle me dit, je suis bien arrivé, je vais très bien. J'ai dit, mais attends, je suis en train de dormir. Tu me téléphones pour me dire que tu vas très bien. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu... Bon, et... quelques années plus tard, ou quelques mois, je suis à la télévision dans une émission où il y a l'avocate de Carlos, qui s'est mariée avec lui. Vous vous souvenez ? Elle est devenue sa femme. Et je lui dis, votre client et futur mari, je vous signale, il a failli tuer ma femme. Ah bon ? Et je raconte. Et 15 jours après, je reçois une lettre de Carlos. Ça a commencé par « cher camarade ». Me disant, écoutez, j'ai été très frappé ce que vous dites. Je vous jure que j'avais rien contre votre femme. C'était pas contre votre femme. C'était contre Chirac. C'était pour tuer Chirac. Me dit. Et ça finissait par mes amitiés révolutionnaires. Eh ben, j'ai gardé cette lettre. Quant à ma femme, elle a été interrogée 4 fois par la police. Pourquoi vous n'êtes pas été jusqu'à votre compartiment ?
Incroyable. Alors, vous auriez pu finir en prison, vous aussi, Jean-François Kahn, pour vol dans une cave, car vous avez volé du vin
une cave. C'était quand on a créé l'événement du jeudi, c'était à ce moment-là, juste avant, oui. Parce que j'avais acheté du vin, mais du petit vin, vous savez, du Vouvray, des choses comme ça, j'avais mis dans une cave et j'avais perdu la clé. Au bout d'un certain temps, j'ai dit, c'est ridicule, même si c'est des petits vins, c'est quand même des vins... Autant que je les récupère, que j'en profite et tout. Et je dis à Perico Legas, qui est, comme vous le savez, un spécialiste du vin, je lui dis, écoute, je voudrais le récupérer. Est-ce que tu peux demander à un serrurier d'aller ouvrir la cave, le machin, que je récupère le vin ? Il me dit, quel est le numéro de ta cave ? Je lui donne le numéro de la cave. Alors, le lendemain, il me dit, ça y est, on a tout récupéré, etc. Il dit, mais dis donc, de petit vin, excuse-moi, on en repassera avec ton petit vin. Je lui dis, quoi ? Il me dit, comment ? Du Margaux presque du Romanée Conti, etc. Ça. J'ai dit, mais j'ai jamais eu des vins comme ça, c'est pas possible. Et là, je m'aperçois que je me suis trompé de numéro de cave. Et donc, on s'est cambriolé la cave de qui ? D'un ministre qui s'appelait Dominati. T'as été la ministre de Giscard, un homme politique très important. J'avais cambriolé sa cave. En prenant... Donc, on a été la nuit à 3h du matin et on a remis. Toutes les bouteilles. Et je me souviens, le type, il habitait dans le même immeuble que moi, c'est pour ça qu'il avait cette cave, Dominati. Et sa femme, qui était une femme très, très agréable, elle me croisait dans l'escalier. Elle me dit, monsieur Kahn, peut-être que vous avez une explication, il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. On m'a cambriolé ma cave, on a pris un truc, mais on a tout remis. Comment vous expliquez ça ? J'ai dit, franchement, c'est inexplicable.
Et un jour, un grand vin, vous en avez bu chez Bernard Loiseau. Ça aussi, c'est un très beau souvenir que vous racontez.
C'est parce que c'est un vin, oui, parce que c'était un vin qui datait de 1924, c'est-à-dire sous Clémenceau. Il y avait une chance sur deux que ça soit buvable. En l'occurrence, c'est tombé du beau côté. Et c'était une merveille, en effet. Moi, un jour, j'ai dîné avec Loiseau dans un restaurant à Paris. Nos voisins de table, à un moment, se sont levés. Quand ils ont eu fini, ils sont retournés. Et ils se sont mis à majorier, tous les deux. Et Loiseau, qui était le mec le plus gentil qui soit, le plus sympa, ça l'a traumatisé. Ces gens qui, tout à coup, se retournaient pour majorier.
Oui, d'ailleurs, Loiseau, dès qu'il croisait quelqu'un dans la rue, il lui disait bonjour, même s'il ne connaissait pas, en disant, c'est peut-être un client, je ne vais pas le froisser, et je lui dis bonjour.
Non, mais il était merveilleux, Loiseau.
Extraordinaire. Alors, ce qui est merveilleux aussi, c'est tout ce qui est dans ce livre, parce que c'est un livre qui est un témoignage d'une époque et pas une prise de position, Jean-François Kahn.
Oh, on ne peut pas dire ça non plus, il y a des prises de position, chacun a ses opinions. Non, il y a des prises de position.
Oui, mais cher à votre cœur, mais c'est surtout un témoignage d'une époque.
Ah oui, c'est un témoignage, y compris de nos combats, parce qu'on a beaucoup mené le combat. Et entre autres, ce que je raconte aussi, c'est quand même parce que ça, ça a correspondu à cette période. Je dis ça parce que c'est lié à l'actualité. C'est l'écroulement de l'Union soviétique et comment on a fait le jeu de Poutine, enfin, et comment on a contribué aux prises de pouvoir par Poutine et comment on a contribué au pouvoir de Poutine. Je raconte aussi, c'est une chose que... Mais quand je le disais à l'époque, ça n'intéressait personne.
Voilà, mais vous l'avez vu plusieurs décennies avant tout le monde.
Oui, je ne suis pas le seul à avoir vu, mais c'est... Pff, il a, vous savez, il y avait un projet de constitution. C'est Eltsine qui avait fait un projet de constitution. Un projet de constitution... extrêmement autoritaire. Enfin, c'est celui dont profite Poutine. Et vous avez la Douma, donc l'Assemblée, qui à l'époque était très pluraliste, c'est pas comme aujourd'hui, qui s'est opposée à ce projet de constitution. Donc il y a eu vraiment un affrontement entre la Douma et Poutine. Et Eltsine, pardon. Et Eltsine. Eltsine a envoyé les chars d'assaut pour écraser la Douma. C'est l'Assemblée élue qui votait contre sa constitution. Les chars d'assaut. Et j'entends encore à la télé française une présentatrice... du journal, dire « La démocratie vient de triompher à Moscou ».
Voilà. D'autres souvenirs, il y en a beaucoup dans ce livre de près de 600 pages que je vous recommande, qui est donc « Les mémoires d'outre-vie », tome 2 aux éditions de l'Observatoire. Et vous allez continuer comme ça, il y a un tome 3.
Bon, le dernier sera le 3, mais le 3 ça paraît comment on en est arrivé là, eh ben, compte tenu de ce qui nous attend.
Eh ben on le lira et on vous recevra dans les clés d'une vie. Merci Jean-François Kahn, merci et continuez ainsi à être un témoin de votre époque. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.